Mehdi 1, Karima, Matin Famille.
Et nous y sommes, nous sommes en direct avec Coach Imenj Bilou pour parler aujourd'hui de l'enfant hyperactif. Coach Imenj Bilou, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Matin Famille aujourd'hui.
Bonjour Karima.
Ben, on va commencer peut-être par une petite introduction, une petite définition d'hyperactivité qui est des fois utilisée un petit peu à tort et à travers. Comment est-ce qu'on définit l'hyperactivité de façon générale ?
On pourrait dire quelque part que si le stress est le mal du siècle pour les adultes, l'hyperactivité est un peu le mal du siècle pour les enfants. Donc, de plus en plus, on va entendre ce terme, on l'entend même tous les jours. On entend « mon enfant est hyperactif » ou « mon enfant est dans une classe d'hyperactif » ou souvent, on va entendre ce terme conjugué à toutes les sauces et franchement, on le voit partout, même à la télé, même dans des articles de presse, etc. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait d'abord distinguer l'enfant hyperactif d'un enfant agité ou un enfant turbulent.
On va quand même
utiliser ce terme, même s'il est quelque part, c'est un terme de jugement, mais juste pour faire le distinguo entre ce qui est pathologique et ce qui est de l'ordre du comportement chez un enfant qui est quelque part dans son développement, dans son processus normal. Alors, pour distinguer l'un de l'autre, parce que bon, aujourd'hui l'hyperactivité, il faut la définir en tant que pathologie, une véritable pathologie qui va résulter d'un dysfonctionnement du système nerveux. D'accord. Alors, si notre enfant est impulsif, il est constamment agité, c'est-à-dire qu'il bouge tout le temps, pas uniquement vers l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas uniquement dans le mouvement, dans le mouvement du corps, mais aussi intérieurement, on a l'impression que ça bouillonne de l'intérieur, on peut le percevoir. Alors, s'il y a tout cela, et si tout ça va impacter ou nuire à ses relations avec autrui, que ce soit au niveau de l'école, avec ses camarades, ou avec la famille, avec ses frères et sœurs, ou même avec ses parents, ses cousins, etc. Si ça nuit aussi à son rendement scolaire, si ça nuit à son humeur, là, on a besoin d'un suivi médical et psychologique. Il faut aller consulter parce que l'enfant, pas parce que l'enfant rend la vie difficile à son entourage, parce que l'enfant réellement vit une situation difficile et il est dans une sorte de cauchemar permanent. Tout ce qu'il vit est encore plus dur pour lui qu'il n'est pour son entourage. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que souvent, on va prendre l'enfant hyperactif pour un être qui va compliquer l'existence de ses parents, de ses frères et sœurs, de sa classe, de ses professeurs, etc. Mais on va oublier le drame qu'il est en train de vivre et de manière constante et quotidienne. C'est permanent chez lui. C'est-à-dire qu'il est dans une situation délicate où il est dépassé par ce qu'il vit. Donc là, il va falloir aller consulter. Maintenant, si on est dans une autre situation, c'est-à-dire celle de l'enfant agité, excité, énergique, là on est dans une forme de d'évolution de l'enfant par rapport à son environnement et par rapport à ce qu'il vit au quotidien. Et donc là, la question était de définir. Là, il fallait d'abord distinguer.
Moi, distinction
était. Elle est très importante, encore plus importante que la définition. Parce que si je me mets à définir l'hyperactivité ou l'agitation par les symptômes, ils sont similaires entre l'enfant hyperactif pathologique et l'enfant, qui est tout simplement agité ou excité au quotidien. Alors, les symptômes peuvent nous tromper. Le seul capable de faire
la différence,
vraiment un cas, pathologique ou pas, c'est le médecin qui va le voir, qui va le diagnostiquer. D'accord. Alors, ces symptômes, bien entendu, on l'a dit, c'est bien l'agitation, c'est bien le déficit de l'attention dans certains cas, c'est bien l'impulsivité. Dans certains cas, on va appeler impulsivité, on va l'appeler insolence aussi. C'est les enfants insolents qui vont avoir des réactions un peu limites, même avec leurs parents. Donc, tout cela va être du ressort du symptôme ou des symptômes de l'hyperactivité ou de l'agitation dans les deux cas. Voilà.
Et qu'est-ce que les parents doivent faire justement dans ce sens, ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire les deux?
Alors, d'abord, pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir envisager une sorte de stratégie pour gérer son enfant excité ou son enfant énergique, il faudrait d'abord qu'on se penche sur les causes de l'hyperactivité en général, qu'elle soit pathologique ou non. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous allons dire oui, mais bon, c'est un problème, on n'y est pour rien, ou bien vous allez avoir des parents qui vont vraiment culpabiliser, ils vont venir, ils vont dire qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir un enfant comme ça, est-ce que je n'ai pas fait les bons choix, est-ce que je n'ai pas pris le temps de l'éduquer, est-ce que... Vous savez, ça existe, ça aussi. Et ça n'aide pas. C'est quand on va culpabiliser en tant que parent, on ne va pas aider son enfant. Parce que l'enfant va se sentir encore plus en difficulté ou encore plus il va se sentir dans une forme d'insécurité.
Et même un peu coupable aussi. Il va se dire, c'est de ma faute et ça va encore...
Oui, au-delà de la culpabilité, certes, il va se sentir coupable, mais au-delà de la culpabilité, la personne qui est censée ou les personnes qui sont censées le protéger deviennent défaillantes.
Ouais.
Donc, il est carrément en danger. Il se sent en danger. Il ne dispose d'aucune protection. Donc, voilà. Alors, se pencher sur la raison, on va dire que maintenant, par exemple, la scolarisation, elle est de plus en plus précoce. Alors, on va avoir des enfants qui vont être scolarisés, je veux dire, à la crèche, vraiment en bas âge. Alors, et ces enfants, dès qu'ils vont pouvoir se tenir debout, pouvoir s'asseoir, pouvoir communiquer avec autrui, on va leur demander de se tenir au calme, de se tenir assis, d'accord, et de ne pas beaucoup gigoter, ni parler, ni etc. Alors, cet enfant, il va se retrouver dans une salle de classe avec plusieurs autres enfants, donc un environnement qui n'est pas du tout favorable au calme. Et on va lui demander de se tenir, de ne pas bouger, de ne pas parler. C'est quand même antinomique. Donc, cet enfant qui va passer ses quelques heures à l'école pendant toute la journée, il va arriver à la maison avec un trop-plein d'énergie qu'il a besoin de dépenser. Il va vouloir se défouler. Mais arrivé à la maison, les parents, ils reviennent du travail aussi. Donc, ils vont aussi lui demander la même chose. Ils vont lui donner un peu de temps, mais après ils vont lui dire « Écoute, maman est fatiguée, elle vient de sortir d'une réunion, elle n'a pas trop le temps, elle n'a pas trop d'attention pour pouvoir dire à te prêter, etc. » Donc là aussi, il va cumuler les frustrations. Donc on va créer une boule d'énergie qui va être prête à éclater, à exploser à tout moment. La deuxième raison, en fait, j'ai essayé de lister quelques raisons. Alors, il y a la scolarisation précoce, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, nous allons stimuler cognitivement nos enfants de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a des jeux éducatifs sur le marché. Dès qu'on va avoir un bébé, on va aller faire un tour dans les magasins de jouets et on va trouver énormément de jeux d'éveil. Tous ces jeux d'éveil, on va vouloir, c'est attractif pour les enfants, mais aussi pour les parents. Hein, quand on dit oui, c'est trop mignon, oui, c'est hyper futuriste, oui, tout ça, ça nous plaît. Hein, et parce qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer avec les mêmes jeux, c'est une revanche en quelque sorte. Alors on va tout acheter. On va commencer, plus on aura les moyens de le faire. Et même des fois, on va se priver d'autres choses pour pouvoir offrir à notre enfant le meilleur. Et on va cumuler les jeux, donc on va surstimuler cet enfant. Imaginez comment cet enfant va être surstimulé à un âge très, 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 très précoce. Il y a aussi les télés, les chaînes télévisées qui vont offrir des programmes très tôt pour les enfants à partir de 7 heures. On a des émissions, des dessins animés,
en boucle en plus.
Exact. Et les parents, parce que ils veulent que leurs enfants prennent le petit-déj, des fois, ils allument la télé devant la table du petit-déjeuner. Voilà encore une surstimulation. Donc là, on a parlé de la scolarisation qui est précoce avec ce besoin ou il y aura une injonction de se tenir au calme aux enfants qui va quelque part préparer une boule d'énergie prête à exploser. On a la surstimulation cognitive. On a aussi le besoin chez l'enfant de s'agiter pour dire qu'il est là.
Vous
voyez, des fois, les enfants, ils ont l'impression de ne pas exister ou d'être transparents pour leurs parents. Alors, ils vont être agités, ils vont être impulsifs, voire insolents, pour pouvoir
attirer l'attention.
Manifester leur présence. Mmh. Exactement, Karima. Ils sont en train d'attirer l'attention, de provoquer chez le parent ou chez le vis-à-vis une réaction pour qu'ils se sentent exister. Mmh. Donc, tout cela va faire que, en ajoutant à cela, j'allais l'oublier, l'alimentation. Riche en sucre, riche en additifs, riche en colorants, riche en viande, tout ça va provoquer des troubles du système digestif et du système nerveux qui va causer qui va causer une agitation chez l'enfant, une sorte de turbulence, si on peut, on peut l'appeler ainsi. Donc tout ça, comment, vous m'avez dit, mais comment un parent pourrait agir avec cet enfant? Il faudrait que déjà le parent il soit conscient que l'enfant vit une forme de chaos. Parce qu'un enfant qui est agité, un enfant qui est surexcité, est un enfant qui vit dans un chaos permanent. Il part dans tous les sens. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'ordre dans ce qui se fait au niveau de cet enfant. On va le voir sauter sur les matelas, on va le voir courir, on va le voir crier, on va le voir rigoler pour rien, on va le voir faire des bêtises, essayer d'attirer l'attention, comme vous l'avez si bien dit, en faisant des choses qui peuvent même être dangereuses. Donc, ça part exactement dans tous les sens. Alors, on ne peut pas traiter un chaos par un chaos.
Bien sûr.
Ça, c'est la première des choses que les parents devraient comprendre. Alors, Karima, je pense que vous allez trouver un écho dans votre entourage de ce que je dis. Mais il y a certains parents, quand ils vont voir leur enfant sauter, faire n'importe quoi, ils vont se mettre à crier en disant n'importe quoi. J'ai été au supermarché, j'ai vu une dame qui craque, pas pour la juger, mais qui a complètement craqué parce que son enfant justement était agité. Elle était en train de lui dire « mais dégage, je ne veux pas de toi
». Ça va trop loin, c'est vrai.
C'était des choses qu'elle ne pensait certainement pas. Elle a l'air d'être une maman aimante, etc. Mais elle était dépassée à un certain moment. Elle ne pouvait pas. C'est en fin de journée, donc j'imagine qu'elle est active, qu'elle a énormément de choses à gérer dans la journée. Donc ça aboutit à un discours de ce genre, un discours incohérent dans les cris, dans le rejet, dans le... Et c'était l'expression manifeste du chaos chez elle. Comment je peux pousser mon enfant à aller vers l'ordre, vers la cohérence, vers le calme, vers, en étant moi-même dans la perturbation?
Ouais, c'est pas possible.
Donc voilà, alors ça c'est la première des choses. Il faudrait qu'on sache qu'un enfant a besoin déjà que ce chaos soit quelque part identifié et qu'on lui renvoie par un miroir ce qu'il fait en essayant de lui donner une option, une alternative. Quelque chose qui est loin de ce que lui il vit ou loin de cette ambiance dans laquelle il se développe. Donc pour ça, il va falloir quelque part que cet enfant puisse bénéficier d'un espace d'expression. Vous savez, une agitation, là on ne parle pas d'hyperactivité, ou même pour l'hyperactivité dans certains cas, il s'agit d'expression de quelque chose. Un enfant agité va vouloir exprimer quelque chose. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la fatigue, ça peut être un surplus de bonheur même, pas forcément négatif. Ça peut être un sentiment d'inquiétude, ça peut être de l'angoisse. Donc il faudrait que cet enfant puisse exprimer ce ressenti qu'il a ou ce trop-plein de quelque chose. Il faut qu'il puisse le déposer. Et pour ça, il faudrait qu'on lui donne l'espace nécessaire ou l'espace suffisant pour qu'il puisse le faire. Alors, on va l'écouter, on va essayer de l'aider à s'exprimer parce que vous savez, on n'a pas forcément l'occasion d'assurer une éducation émotionnelle à nos enfants. On n'y pense pas.
C'est vrai.
Autant on est trop sur nos enfants en termes de stimulation cognitive, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant pour l'émotion, on ne sait pas faire parce que nous-mêmes, je veux dire, on n'en a pas bénéficié, je ne sais pas pour vous.
Non, c'est vrai, je pense que c'est limite culturel des fois aussi. Donc, voilà,
justement, je veux dire, moi, étant enfant, je ne me rappelle pas avoir reçu une éducation où on me parlait des émotions, où on me disait « exprime-toi, qu'est-ce que tu ressens après une situation délicate ou une situation où moi j'ai gaffé, où moi j'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'ai ressenti ?» Ah, pas du tout, je me faisais punir après, au revoir, merci. Donc tu en as appris une leçon et puis c'est tout.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai, hein. Et pour ça, ben, je salue mes parents qui ont fait ce qu'ils pensaient, je veux dire, adéquat et ajusté pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et alhamdoulilah, ça va. Hein,
je gère.
Il n'y a pas eu trop de dégâts.
Alhamdoulilah, voilà. C'est le plus important.
Alhamdoulilah. Mais voilà, on a quand même ce manque, il faut l'avouer.
C'est vrai.
Donc, pour pouvoir transmettre à nos enfants ou pour pouvoir éduquer nos enfants émotionnellement, nous n'avons pas de base, nous n'avons pas de manuel pour le faire. Et du coup, ces enfants ont du mal à s'exprimer émotionnellement, à déposer leurs ressentis, etc. Alors, il faudrait que maintenant qu'on en est conscient aujourd'hui, même en écoutant cette émission, peut-être que ça va attirer ou réveiller certaines personnes
bien
sur
sûr.
Cette lacune, ils vont se dire, ben voilà, il faudrait peut-être que j'écoute un peu plus mon enfant, mais pas que je l'écoute sur le côté intellect, sur le côté logique, sur le côté cohérence cognitive. Non, je vais l'écouter sur le côté émotionnel.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a besoin d'exprimer? Qu'est-ce qu'il ressent au juste? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Donc déjà, lui donner cet espace pour qu'il puisse...
Mettre des mots justement sur ce qu'il ressent.
Exact. Alors, si la cause de l'agitation est un sentiment d'insécurité, par exemple, il faudrait qu'on puisse ramener de la sécurité dans sa vie. Alors, comment est-ce qu'on ramène de la sécurité dans la vie d'un enfant agité? On doit installer une routine. Vous savez, les enfants agités ont besoin d'avoir des repères dans leur vie. Alors, installer une routine, c'est peut-être même en la schématisant, hein, à l'aide d'un tableau ou d'un dessin ou carrément d'une liste numérotée. On va lui dire, voilà, au réveil, ce qu'on doit faire tous les jours. Bien sûr, en rajoutant un aspect ludique à la chose.
Un peu fun.
Des couleurs, voilà, il faut qu'il y ait du fun. Donc, tout ça, et l'afficher à un endroit où il est souvent assis, où il se trouve souvent, dans sa chambre, ou quelque part, hein, le séjour ou quoi. Et voir avec lui s'il arrive à suivre cette routine, bien sûr, en lui donnant modélisant pour lui, en lui donnant l'exemple. Donc, voilà, il faudrait d'abord installer cette routine. Il faudrait utiliser pour cela, comme je l'ai dit, des repères, mais des repères temporels.
Oui.
Il faudrait peut-être accorder ou associer chaque tâche à un créneau horaire. Familiariser notre enfant à un minuteur ou bien un sablier. Moi, j'aime bien l'idée du sablier, j'aime beaucoup ça.
C'est sympa,
un sablier pour qu'il... c'est mignon,
ouais,
en plus.
C'est,
du sable qui fait un peu magique. Quelque part, alors familiariser son enfant au sablier, ça lui permet quelque part de prendre conscience du temps qui passe et du temps que prend chaque activité et des résultats ou bien des réalisations qu'il pourrait faire dans un moment, réduit. Par exemple, au bout d'une demi-heure, tu as réussi à faire cela. Regarde, tu as eu un résultat à ton action.
Ouais.
Ça veut dire qu'une demi-heure te permet quand même d'arriver à ce résultat-là. Ça, c'est très, très important. Maintenant, à côté de tout ce qui est sécurité, etc., à offrir à l'enfant, il y a aussi des moments de divertissement, certes, mais pour se défouler, pour se dépenser. Il faudrait prévoir des activités parascolaires, activités physiques, j'entends.
Du sport, les arts martiaux.
Voilà. C'est super ce que vous dites, Kelima, parce que vous avez dit du sport, des arts martiaux. Alors, l'un et l'autre vont servir à deux choses différentes. Le sport va aider l'enfant à se dépenser, à déposer cette énergie, ce surplus d'énergie. L'art martial, ou les arts martiaux en général, que ce soit du judo, du karaté, j'en passe, va lui permettre de canaliser son énergie.
Ouais.
Ça a deux finalités différentes. Et c'est très important parce que l'enfant agité a besoin des deux.
Exactement.
Il a besoin de se défouler, de déposer. Il a besoin de canaliser, de savoir orienter son énergie.
Ouais.
Donc, c'est très bien. Les deux sont bien. Vous avez rajouté après, parce que je vous écoute, je vous écoute bien. Vous avez rajouté les activités d'art. Ça, c'est très bien aussi. Parce que l'art, qu'est-ce qu'il permet? Il permet à l'enfant de prendre goût à des activités au calme, à des activités assises au calme, assises ou debout, mais de toutes les manières dans une forme de calme.
Où libérer sa créativité, ça aussi c'est
libérer sa créativité, mais aussi voir naître sous ses mains de belles choses, c'est-à-dire des choses peut-être qui le dépassent, dont il n'était peut-être pas conscient qu'il était capable de faire ce genre de choses. Et il se dit, mais je les ai fait sans devoir m'agiter dans tous les sens, sans devoir fournir un effort physique autre. Donc, là, ça lui fait prendre conscience de ses capacités au-delà de ses capacités physiques.
Ouais.
Parce qu'un enfant agité, il va donner énormément de valeur à tout ce qu'il arrive à faire grâce à son corps, grâce à son corps dans le mouvement extrême. Lui indiquer que même un petit geste des doigts avec un pinceau ou avec un crayon de couleur ou autre, avec en tapant sur un, enfin tapant, le mot taper, en grattant des cordes d'une guitare ou en pianotant, voilà, c'est des choses qui vont lui permettre de se dire, eh ben mon corps, il a d'autres utilisations possibles.
Je peux l'utiliser autrement. Ouais.
Justement.
Ben, merci beaucoup, Imen Jbilou. C'était vraiment un plaisir et c'était un échange riche et très sympa. Comme d'habitude, on se retrouve, Inch'Allah, le lundi prochain pour un nouveau sujet.
Kerima, s'il te plaît, si tu permets une minute.
Bien sûr, bien sûr.
Je voudrais juste qu'on dise aux enfants qui sont agités, il faudrait savoir que l'estime de soi de l'enfant agité est très fragile. Donc l'enfant agité, parce qu'il se fait réprimander souvent à cause de son comportement, de son excitation permanente, et qu'il faut le valoriser pour l'aider à progresser. S'il vous plaît, tous les parents concernés, soyez juste attentifs à votre enfant et faites-lui des retours et des feedbacks positifs pour l'aider à évoluer dans le bon sens. Voilà.
Le message est passé et c'est un très beau message aussi, Imen. Bonne journée, à lundi prochain.
Merci, bonne journée à vous
aussi. Ciao, au revoir. Ciao.